Bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor de Jury Travail et je suis ravie de vous accueillir à cette nouvelle webconférence de Jury Travail où nous aborderons les entretiens et les bilans professionnels. Alors, je m'excuse pour les quelques petites minutes de retard, mais nous avons eu des petits soucis techniques, les aléas du direct. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, concernant les entretiens et bilans professionnels, donc la mise en œuvre de ces dispositifs semble encore assez partielle dans les entreprises, notamment celles de moins de 250 salariés. Et on observe, d'après une étude de 2018, également une disparité de traitement entre les cadres et les ouvriers. Les cadres bénéficient plus volontiers de ces entretiens que les ouvriers qui n'en auraient bénéficié qu'à hauteur de 40%. Donc c'est ce qui nous a amené à choisir ce thème et vous présenter donc ces deux types d'entretiens aujourd'hui. Alors quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet pour vous présenter donc Jury Travail. Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord une actualité, enfin des actualités rédigées par nos juristes dans un langage très clair. Et Jury Travail, c'est également un abonnement qui vous donne accès donc à notre plateau de juristes qui est basé à La Rochelle et qui répondent à vos questions par téléphone. D'ailleurs, on aura l'occasion de vous transmettre au cours de la webconférence un lien qui vous permettra de tester directement, enfin et gratuitement ce dispositif. L'abonnement vous donne également accès à tous nos dossiers et modèles de lettres et de contrats qui vont vous faire gagner un temps précieux et enfin à votre convention collective toujours à jour des derniers accords. Alors, Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Baldassare, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Donc, bonjour à vous, Maître, et merci beaucoup d'être parmi nous.
Bonjour Myriam et merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints en ligne. Donc.
Alors, au cours des 45 prochaines minutes, nous allons donc balayer un peu ce sujet, guidé par les questions que vous nous avez fait parvenir. Donc, dans un premier temps, nous verrons tout ce qui est mis en place de ces entretiens et bilans professionnels. Ensuite, nous verrons la fréquence et le contenu de ces entretiens et bilans professionnels. Et enfin, les sanctions qui s'appliquent lorsqu'on ne respecte pas ces obligations. Alors, je remercie toujours ma collègue Marine qui est là, qui s'est présentée à vous sur le chat, qui vous orientera vers nos différents contenus sur le sujet. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou via l'onglet questions qui est juste à côté. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, quelles sont les différentes étapes qui ont mené à la création de ces deux entretiens et dans quel but ont-ils été créés, Maître?
Bien, merci Myriam. Donc, l'entretien professionnel, le bilan professionnel sont des méthodes d'évaluation des salariés qui ont été mises en place, je veux dire, plus ou moins progressivement. On va y attacher beaucoup d'importance à partir de 2014, 2013-2014. Donc, il s'agit de la fameuse loi du 5 mars 2014 sur l'ANI, qui suit déjà celle de 2013, où on a modifié tout le dispositif de formation professionnelle. Donc, ce dispositif a été modifié suite à une réaffectation des fonds. Il y a eu un système différent, donc on va dire de financement qui s'est mis en place. Mais surtout, c'est la vocation même de ces entretiens qui a changé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment maintenant la mise en place d'une obligation de formation qui est devenue une véritable obligation sociale. Donc, on avait d'abord prévu en 2013 une obligation pour l'employeur de mettre en place un bilan tous les 6 ans. Mais par la suite, on a renforcé ça en 2014, quand on s'est aperçu que c'était insuffisant. On va mettre en place une obligation tous les 2 ans d'un entretien professionnel, tout en maintenant ce bilan de 6 ans, donc qui est là maintenant plus pour faire suite à cette série d'entretiens. Le bilan va être un état des lieux de ce qui a été fait durant les 6 dernières années pour la formation du salarié. En 2018 et 2019, là cette fois, c'est que le législateur va renforcer des obligations pour l'employeur, c'est-à-dire qu'il va obliger l'employeur à informer également le salarié de ce qu'il en est de la validation de ses acquis de l'expérience, de ce qu'il en est de son compte professionnel de formation, comment ce compte professionnel de formation a été activé, également les abondements qu'il est susceptible de financer, et également il doit le renseigner sur tout ce qui est évolution professionnelle. Donc là, effectivement, c'est ce que le législateur a modifié progressivement jusqu'en 2022, où cette fois, on va commencer par mettre en place des véritables sanctions, donc qui sont l'abondement au compte de formation professionnelle. Donc, l'employeur qui n'aura pas respecté ses obligations va se voir en quelque sorte sanctionné. Donc, on a un dispositif qui est de plus en plus important, qui est considéré maintenant comme fondamental. L'idée, c'est de permettre véritablement aux salariés d'évoluer tout au long de sa carrière. Donc, on est sur une il y a un double aspect. C'est d'abord la vocation sociale, c'est-à-dire permettre aux salariés d'évoluer et permettre également à l'entreprise de se mettre toujours à niveau et de préserver les emplois en ayant des salariés qui sont sans cesse à jour. Donc, on est passé quand même d'une philosophie qui était une philosophie plutôt d'incitation à cette fois une philosophie qui est une obligation qui a été faite pour les entreprises de se conformer à ce cadre de la formation professionnelle, d'en faire quelque chose de très important pour l'avenir pour l'avenir de l'entreprise, hein, de manière générale, et bien entendu pour le bien-être des salariés, va pouvoir tout au long d'une carrière donc bénéficier d'une évolution, hein, tant en matière de compétences que peut-être en matière salariale également, puisque normalement l'un ne va pas sans l'autre.
Tout à fait. Et donc, l'intérêt et le but de ces entretiens et bilans professionnels, quel est-il, que ce soit côté salarié ou employeur?
Alors, l'intérêt côté salarié, cela va être du côté de salarié déjà de se poser des questions, parce que le salarié, comme l'employeur hein, d'ailleurs, doivent préparer des entretiens, c'est fortement recommandé. Donc, ça va être pour le salarié de se poser des questions sur ses possibilités d'évolution professionnelle. C'est-à-dire d'aller lui-même d'ailleurs faire un certain nombre de démarches, parce que la démarche du salarié peut être prise en compte hein, dans le cadre des obligations de l'employeur. Si le salarié propose, il doit pouvoir tenir compte. Donc, pour le salarié, ça va être déjà de se poser la question, d'essayer d'envisager sa carrière, d'envisager sa place dans l'entreprise en termes de carrière, d'évolution hein, personnelle, d'évolution des compétences. Pour l'employeur, il y a également une nécessité, c'est celle d'être toujours à la hauteur hein, au niveau compétition, compétitivité. L'entreprise va devoir suivre des évolutions et le fait de pouvoir adapter ses salariés, que les salariés adaptent leurs connaissances, eh bien, c'est forcément un plus pour les grandes entreprises, bien sûr, qui sont très souvent structurées, mais également pour les petites, parce que le salarié va pouvoir peut-être apporter en compétences et pouvoir peut-être faire également en sorte que l'entreprise puisse se déployer. Donc, là, je parle même de très petites entreprises, hein, puisqu'elles sont aussi assujetties. Si elle veut se déployer, il est bien évident que la formation professionnelle des salariés va être un moment crucial qui va lui permettre également d'envisager peut-être de nouveaux marchés, peut-être de nouvelles activités. Mais en tout cas, l'idée, c'est de s'adapter véritablement toujours à une évolution dans un sens qui est plutôt positif, dans le sens d'une émulation qui va être réciproque, celle de l'entreprise, celle du salarié.
Très bien, merci beaucoup, maître. Alors, il y a souvent une confusion qui est faite également avec les entretiens d'évaluation. Mmh. Donc, en quoi ces entretiens professionnels sont-ils différents des entretiens d'évaluation ?
Voilà, donc effectivement, c'est toujours un petit peu le risque, la crainte que ces entretiens professionnels ne soient pas gérés correctement parce qu'on les confond effectivement avec l'entretien d'évaluation. L'entretien d'évaluation, c'est effectivement faire un bilan des compétences professionnelles de son activité, de l'activité du salarié. Et effectivement, l'évaluation, c'est comme son nom l'indique, l'évaluation de sa performance professionnelle. Donc, il y a l'entretien d'évaluation, l'entretien de performance. Donc, ce sont des entretiens à part, uniquement destinés à voir comment si le salarié a travaillé, bien travaillé, quelles sont ses failles, etc. Donc, on est là dans l'évaluation des compétences. L'entretien professionnel, est complètement différent. Seul est envisagée la perspective d'évolution professionnelle, c'est-à-dire c'est un entretien très technique sur la formation professionnelle qui peut être mise à disposition du salarié, évolution possible au niveau de cette formation professionnelle. Donc, ça nécessite que l'employeur, d'ailleurs, s'accompagne d'outils techniques et il peut également être assisté, hein, dans l'employeur comme le salarié peuvent être assistés au cours de ces entretiens. Il s'agit d'une assistance purement testique, c'est-à-dire l'employeur doit se renseigner sur simplement les formations que le salarié peut suivre dans l'entreprise. Bien entendu, il peut l'amener à réaliser quand même un bilan de compétences qui est complètement différent d'une évaluation, mais pour lui permettre de voir quelles sont les formations qu'il peut suivre, c'est tout. À aucun moment, on ne va aborder le problème de l'évaluation professionnelle du salarié. Donc, il est bien évident qu'il va falloir, la plupart du temps, faire deux entretiens séparés. Conseiller de bien séparer les entretiens pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, d'un côté, on va gérer l'entretien d'évaluation. D'un autre côté, on va gérer l'entretien professionnel. Là, on va parler que formation, que évolution possible. Quelles sont les formations que peut faire le salarié? Quelles sont les formations proposées dans l'entreprise? Quelles sont les formations qui sont utiles à l'entreprise que le salarié pourrait éventuellement aborder?
Très bien. Merci beaucoup. Et donc, qui, à votre sens, doit mener ces entretiens d'évaluation? Plutôt les managers, plutôt les RH? La loi le précise-t-elle?
Alors, pour l'entretien d'évaluation, cela paraît effectivement plus logique que ce soit le manager. Mais là, nous sommes sur l'entretien professionnel. La loi ne donne pas de définition, ne n'impose pas quoi que ce soit sur qui doit prendre la responsabilité de ces entretiens d'évaluation. Il est quand même beaucoup plus logique et beaucoup plus recommandé de le faire par le service des ressources humaines parce qu'effectivement, il n'a pas une prise directe avec le salarié au quotidien. Hein, donc, le manager, lui, qui va se confronter au salarié, peut-être dans des cas où la relation n'est pas forcément tous les jours au beau fixe, ce qui peut partir logiquement d'une relation de travail, hein, tout ne peut pas être parfait, il va peut-être avoir un regard complètement différent sur l'évolution, sur les possibilités du salarié d'évoluer et sur les perspectives professionnelles de son salarié. Donc, il est bien évident que si les entreprises ont un service ressources humaines, il est important et beaucoup plus facile, beaucoup plus souple de le faire par le service ressources humaines qui, par ailleurs, est plus structuré. Bien sûr, pour les petites entreprises, c'est l'employeur. C'est l'employeur qui, lui, va devoir gérer à la fois l'aspect évaluation, c'est-à-dire aux professionnels, des objectifs n'ont pas été atteints, il faudrait faire… Mais il va devoir également gérer l'entretien professionnel. Donc, l'intérêt de séparer les deux entretiens dans le temps, dans ce cas-là, est d'autant plus évident que ça va être très difficile dans une petite entreprise, ici, par exemple, un seul salarié, de faire l'entretien professionnel et l'entretien d'évaluation. Donc là, effectivement, c'est l'employeur qui va revenir la charge de faire ce type d'entretien.
Alors, une petite question qui nous a été posée, certains postes de production ne donnent pas grande possibilité d'évolution. Que fait-on si on n'a aucune formation à proposer en lien avec le poste? Alors, en fait, on peut imaginer un changement de poste, effectivement, oui, du salarié, et un accompagnement du changement de poste du salarié. Et un bilan de compétences peut éventuellement, vous parliez du bilan de compétences tout à l'heure, un bilan de compétences peut tout à fait guider le salarié pour l'amener à réfléchir à son avenir professionnel.
C'est-à-dire qu'effectivement, le bilan de compétences va vraiment faire partie, d'ailleurs, de ce système de formation professionnelle. Hein. Donc, d'ailleurs, il a été introduit dans le Code du travail. Donc, si certains postes permettent difficilement d'évolution, parce qu'effectivement, on ne peut pas les transformer, ça ne veut pas dire que le salarié n'a pas de possibilité d'évolution de carrière, même si sa carrière, alors, peut-être ne se poursuivra pas dans sein d'entreprise, mais il peut accéder à un autre poste. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment que le salarié puisse évoluer éventuellement, même y compris sans changer de statut. Donc, à la suite d'un bilan de compétences, il peut être renvoyé à des formations qui peuvent être des formations techniques, mais qui peuvent être aussi des formations qui sont des formations de l'ordre de la gestion, économie, gestion. On peut éventuellement passer d'un statut à un autre. Effectivement, sur le poste de production, le salarié n'a pas forcément vocation à rester toute sa vie à un poste de production. Il peut également évoluer. Alors, au sein de l'entreprise, c'est préférable, mais pas forcément d'ailleurs qu'au sein de l'entreprise. Il peut également évoluer vers un autre statut, c'est-à-dire passer à un poste administratif, ce qui va nécessiter qu'il suive une formation qui est adaptée, qui ne sera pas forcément une formation diffusée par l'entreprise. On doit passer par des organismes de formation qui sont agréés. Donc les possibilités existent quand même pour les postes de production.
Alors là, on a beaucoup de questions sur, effectivement, ceux qui reviennent sur et si le salarié ne veut pas faire de formation ou si le salarié ne veut pas évoluer. Alors, que faire?
Alors, l'employeur, alors voilà, c'est là qu'on va rentrer aussi dans l'aspect technique de la manière dont on va gérer l'entretien. L'employeur a une obligation, c'est celle de proposer aux salariés ses formations. Donc, le salarié, par contre, n'a pas l'obligation d'accepter. S'il ne veut pas évoluer, même s'il ne veut pas se rendre aux entretiens, il n'y a pas de sanction du salarié. Sauf, effectivement, pour ce qui est quand même… on n'a pas assez insisté sur les différentes formations. Il y a un côté obligatoire, des formations qui sont obligatoires.
Oui, mais on y reviendra un petit peu plus tard.
Là, on est dans le cadre, effectivement, des formations destinées à l'évolution. Alors, pour ces formations qui concernent l'évolution professionnelle du salarié, l'employeur ne se voit pas sanctionné s'il a respecté ses obligations. C'est là qu'on va rentrer tout à fait dans l'aspect technique, oui. Donc de la manière de gérer les entretiens, c'est qu'il est conseillé de toujours laisser une trace écrite, donc de ce que l'employeur a convoqué le salarié, qu'il a tout prévu, qu'il a mis en place un certain nombre de choses, c'est-à-dire une trame, qu'il a un dossier, qu'il a fait faire donc dans son dernier bilan, qu'il y a une réflexion qui a été faite de son côté, qu'il a convoqué le salarié. Donc, ça se fait par écrit, par mail, en laissant une trace. Et donc, dans ce cas-là, si le salarié ne souhaite pas évoluer, ne souhaite pas faire de formation professionnelle, eh bien, il n'y a pas de sanction véritable contre l'employeur, ni même d'ailleurs contre le salarié. C'est pas une obligation pour lui de vouloir forcément évoluer à un poste. On ne le sanctionnera pas pour ça. On le sanctionnera par contre en autre aspect, c'est les formations obligatoires là qui peuvent qui concernent la sécurité.
On reviendra sur le distinguo
entre plus sur le temps de travail et le salarié. Là, en général, il les respecte d'ailleurs ses obligations.
Alors, une dernière petite question sur cette première partie. Toutes les entreprises sont-elles concernées par ces obligations?
Et oui.
Quelle que soit la taille.
Quelle que soit la taille de l'entreprise, et même une toute petite entreprise est concernée par ses obligations. Et ça, je le répète, c'était vraiment le but, c'est vraiment d'en faire un outil pour le salarié, un outil de développement de l'entreprise, un outil également pour le salarié. Et même la petite entreprise peut se poser la question de savoir si elle ne va pas, en envoyant son salarié en formation, pouvoir là également. Peut-être développer d'autres activités, peut-être renforcer également son pouvoir économique. Et donc, même si effectivement les liens semblent complètement différents, puisqu'il y a plus de proximité, puisqu'il y a forcément aussi peut-être un peu plus d'indépendance du salarié qui est dans une toute petite entreprise, il n'empêche que l'employeur est quand même tenu de respecter ses obligations. Et ça va concerner dès qu'il y a un salarié dans l'entreprise, en fait.
Très bien. Alors, on va rentrer maintenant dans notre deuxième partie sur la fréquence et le contenu de ces entretiens. Donc, à quelle fréquence ces entretiens et bilans professionnels doivent-ils être organisés?
Alors, ah oui, ben il y a le tableau qui s'affiche, donc voilà, comme le tableau est parfait, c'est que on va devoir organiser à partir de l'embauche du salarié un entretien professionnel tous les 2 ans. L'entretien professionnel, donc c'est tous les 2 ans, c'est calendaire, hein, c'est-à-dire on va compter véritablement 2 ans de date à date. On tiendra pas compte donc des périodes d'absence du salarié, c'est vraiment 2 ans de date à date, et au bout de 6 ans, on doit prévoir l'entretien, le bilan professionnel, donc au bout de 6 années. Donc ces obligations doivent être respectées. Vraiment strictement. Et donc le contenu de l'entretien professionnel, le contenu d'entretien professionnel, il n'est pas strictement défini, hein. Donc on a effectivement l'obligation de faire pour le salarié d'orienter vers des évolutions professionnelles, mais voilà, donc il y a des devoirs. Je cite de ceux que j'ai rappelé tout à l'heure d'ailleurs, la validation des acquis de l'expérience, l'employeur doit l'en informer, comme pour l'activation de son compte professionnel, des abondements, voilà. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il suffit de regarder l'article du code. Donc, il doit également lui donner des conseils sur son évolution professionnelle. Mais à vrai dire, le but de l'entretien professionnel, c'est vraiment d'essayer de se mettre d'accord sur un projet professionnel. Donc c'est bien pour l'employeur, comme c'est bien pour le salarié de le préparer, d'avoir un
Tout à
plan, de
fait.
s'enseigner un petit peu à l'avance, effectivement de se faire aider. Alors là, attention, hein, on n'est pas dans le cadre des entretiens destinés dans lesquels en fait on appelle un délégué syndical dans un but d'un petit peu de protéger le salarié. C'est un entretien. Les personnes qui aident sont des techniques en fait, qui connaissent un petit peu tous ces outils de formation. Et qui peuvent compléter en fait l'entretien en disant voilà, là il y a possibilité de faire ça. Si effectivement le salarié par exemple est intéressé en disant moi je serais intéressé, j'aurais envie d'évoluer vers tel ou tel poste, il y a possibilité de se faire aider aussi de technique au cours de ces entretiens professionnels, mais uniquement dans le sens de voir quels outils, quels instruments, en fait, on va pouvoir apporter pour permettre aux salariés d'évoluer. Donc, on est là véritablement uniquement sur une idée de voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble au sein de l'entreprise, quels organismes de formation on va pouvoir rejoindre, comment ça va pouvoir être financé, sachant que non, le salarié peut aussi de son côté faire des démarches. Lors du bilan professionnel, ce bilan professionnel est très important parce qu'on va faire l'état des lieux. On va regarder si pendant 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que le salarié a suivi des formations autres que des formations obligatoires? Est-ce que le salarié a évolué? Alors, on parle d'une évolution en termes de carrière, c'est-à-dire d'une évolution qui peut être un progrès, hein, c'est-à-dire une évolution salariale en termes d'augmentation de salaire. mais également une évolution qu'on pourrait qualifier de plus horizontale, c'est-à-dire dans la prise de responsabilité. Est-ce que durant ces 6 ans, le salarié a évolué? Et effectivement, si on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, là, effectivement, il y a effectivement risque de sanction pour l'employeur si effectivement non, il ne s'est rien passé au bout de 6 ans. Donc, on va là véritablement faire l'état des lieux de ce qui s'est passé dans les 6 dernières années. Et cet état des lieux, d'ailleurs, comme les entretiens professionnels, doivent s'accompagner d'un écrit. C'est-à-dire qu'après, il faudra rendre au salarié un écrit disant voilà ce qui a été fait, voilà ce qui a été proposé lors de l'entretien, voilà ce qui a été mis en place, voilà pourquoi ça n'a pas été mis en place. Il est aussi de recommander à l'employeur, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, de noter toute forme d'incident. Donc, alors, qu'est-ce qui a pu se passer? C'est, comme vous l'avez fait remarquer, Myriam, le refus d'un salarié, mais ça peut être également l'absence d'un salarié. Un salarié qui a été absent pour congé maternité, congé sabbatique ou autre, ou arrêt maladie, durant la période dans laquelle les 2 années, il se peut que ça ait pu empêcher une formation de se mettre en place parce qu'il n'est pas présent en entreprise. Ça peut empêcher une formation ou un entretien d'ailleurs. Donc, l'employeur doit noter tous les incidents et il est bien recommandé d'avoir un registre spécial dans lequel il va lui aussi suivre la carrière du salarié pour ne pas avoir de problème si effectivement on lui demande des comptes.
Très bien, merci beaucoup. Alors, il va falloir qu'on avance un tout petit peu. Alors, je vais juste présenter brièvement la slide suivante parce que donc il y a le rythme obligatoire de l'entretien professionnel tous les 2 ans et le bilan tous les 6 ans. Mais comme vous pouvez le voir à l'écran, dans certains cas, les employeurs ont également l'obligation d'organiser des entretiens professionnels en règle générale au retour d'une absence prolongée, donc type congé maternité, un long arrêt maladie, et également à l'issue d'un mandat syndical. Je le dis parce que je sais qu'il y a plusieurs élus qui sont également présents. Alors, en termes de fréquence, également, des accords d'entreprise peuvent modifier la fréquence de ces entretiens et ils peuvent également modifier d'autres éléments. Quels sont-ils?
Alors, dans le cadre des accords d'entreprise, on peut modifier la fréquence des entretiens. Ça veut dire que l'entretien peut être annuel, il peut être également triennal, donc on peut réduire ou augmenter la taille des entretiens, mais on va pouvoir également mettre en place collectivement donc un certain nombre de choses, c'est-à-dire par exemple l'abondement par l'employeur des manières différentes d'abonder sur le compte du salarié, sur le compte de formation professionnelle. On va également pouvoir prévoir des modalités particulières d'évolution, des modalités différentes de mise en place, d'évolution des parcours professionnels. En fait, c'est quand même assez libre dans le cadre de la négociation collective, puisqu'on veut simplement à la fois, on peut modifier le rythme, un rythme qui paraît inadapté, ou alors également, on va pouvoir modifier carrément le contenu, imposer un certain nombre de choses dans un contenu, mais ça, c'est tout à fait un accord avec les institutions représentatives du personnel. C'est un accord collectif et la manière d'abonder, c'est-à-dire que l'employeur peut avoir des contraintes supplémentaires à un abondement. Si, par exemple, une entreprise souhaite envoyer quand même largement ses salariés en formation, parce qu'elle est dans un secteur qui est très évolutif au niveau des connaissances, eh bien, ça peut être aussi intéressant de voir quelles sont les conditions d'abondement qui vont permettre, qui vont favoriser cette situation. Donc, on donne une part à la négociation quand il y a possibilité de passer des accords d'entreprise. Donc, ça peut être des accords d'entreprise ou des accords de branche.
Très bien, merci beaucoup. Alors juste, il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Effectivement, comme le dit Magali, vos OPCO peuvent vous accompagner dans les campagnes d'entretien et de bilan professionnel. Donc, je rejoins tout à fait Magali et je la remercie pour sa réponse. Alors, une question de Karine. Le salarié peut envisager de changer de métier. L'employeur est-il obligé d'aller dans ce sens en termes de formation? Là, je pense que c'est la règle générale des formations qui s'applique. Rien n'empêche un salarié de se former en dehors de son temps de travail. Il n'a même pas à en informer son employeur, il utilise son CPF. En revanche, effectivement, si la formation doit avoir lieu pendant le temps de travail, là, il faudra l'autorisation de l'employeur. Et sur les formations internes type hygiène et sécurité, nous y reviendrons un petit peu plus tard, justement, en abordant la différence entre les formations obligatoires et non obligatoires. Et donc, nous allons en venir au contenu maintenant de l'entretien professionnel. Quel est-il?
Alors, le contenu de l'entretien professionnel, on sent qu'on avait un petit peu abordé tout à l'heure.
Oui.
L'entretien professionnel, en fait, c'est effectivement les formations à suivre. Donc, effectivement, il y a tellement de textes aussi qui renvoient aux formations que c'est très, très exhaustif. On va parler également des formations obligatoires, des formations non obligatoires qu'elle doit également suivre le salarié, puisque l'employeur doit en faire au moins, doit en proposer au moins une tous les deux ans, donc formation non obligatoire, mais également des, voilà, aussi au-delà de ces formations, de ce cadre strict. Donc, on va avoir alors ce que nous dit les textes, la formation obligatoire, c'est les actions de formation qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou de dispositions légales ou réglementaires. C'est-à-dire qu'effectivement, la formation est obligatoire, c'est celle qui va permettre au poste de s'adapter, enfin, au salarié de s'adapter à son poste plutôt, parce que vice-versa aussi peut-être, mais avant tout au salarié de s'adapter, il peut y avoir des réglementations. Alors, c'est tellement vaste. Si on prend par exemple toutes les salariés qui ont besoin d'une formation en matière de sécurité, par exemple sur la radioprotection, il y a des dispositifs particuliers, le salarié est obligé de les suivre, s'il y a un risque chimique, s'il y a un risque électrique, s'il y a un risque, voilà, sur ces différents risques, différents aspects, là, on rentre dans le cadre de formation obligatoire. Ces formations d'ailleurs obligatoires existaient avant le dispositif. Donc, on va devoir effectivement envoyer le salarié dans ces formations obligatoires. Effectivement, les formations non obligatoires, mais là, effectivement, c'est des textes qui le disent. Les formations non obligatoires, elles peuvent aussi être exigées, hein, certaines de l'employeur, si effectivement, elles peuvent permettre de favoriser l'adaptation des travailleurs, comme dit le texte, à son poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi qu'au maintien dans l'emploi, etc., de participer au développement de leurs compétences. Donc, en fait, voilà, c'est comme le dit le texte, permettre aux travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée. L'employeur a au moins l'obligation d'en proposer une aux salariés pour lui permettre de véritablement évoluer. Donc, on va considérer comme action de formation, le texte donne, il y a plusieurs textes qui donnent des listes un petit peu assez longues, mais tout ce qui va permettre donc aux salariés d'une part, de s'adapter à son poste, mais également d'évoluer. Donc, le salarié peut, à travers la formation d'ailleurs professionnelle, on peut raisonner en bloc de compétences, hein, également, c'est-à-dire acquérir par exemple une formation en gestion, une formation en économie, pour lui permettre de véritablement évoluer. Alors, je ne sais pas si je vous ai vraiment répondu à la question, mais
Alors, vous avez bien axé sur formation obligatoire et formation non obligatoire. Du coup, j'ai avancé de 2 slides. Nos internautes demandent est-ce qu'on repasse avant. Par contre, j'ai juste une petite question. Alors, il y avait une question de Cathy. Lorsqu'on parle de la formation des élus du CSE, s'agit-il de l'ensemble des membres du CSE? J'imagine que vous voulez parler des suppléants et des titulaires. Là, c'est pareil. La formation est obligatoire pour les titulaires. Pour les suppléants, ça peut se négocier par accord d'entreprise. Et il me semblait qu'il y en avait une autre. J'imagine quelqu'un d'un service RH ou un chef d'entreprise qui fait part de sa difficulté à faire évoluer professionnellement chaque salarié. Peut comprendre effectivement que ce n'est pas toujours une chose aisée. Alors, on va juste revenir un petit peu sur les contenus de l'entretien professionnel. C'est ce qui est présent donc à l'écran en ce moment. Je vous laisse détailler rapidement parce que le temps file à toute allure et il nous reste encore pas mal de choses à voir. Donc, on risque d'avoir un petit peu de retard. Je m'en excuse par avance.
C'est-à-dire que le contenu d'entretien professionnel, il va comme le cadre qui est posé par les textes, c'est quand même un cadre général. Et c'est vrai qu'au cas par cas, on a du mal quand même à guider chacun. C'est-à-dire que c'est vraiment, par exemple, il y a une difficulté que rencontre un directeur ressources humaines, il doit se renseigner effectivement sur ses obligations, elles sont quand même assez clairement définies, vous les avez rappelées d'ailleurs, évolution professionnelle, donc qualification et d'emploi, c'est-à-dire là où j'en suis, et depuis 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Les actions professionnelles, c'est ce qu'il y a, les actions de formation, c'est quelles formations ont bien été suivies. Donc là, on entend par formation toutes les actions de formation, qui soient obligatoires ou non obligatoires. Les certifications, ça va être l'acquisition d'un diplôme, en fait, d'une qualification, donc qui est en général, sont les certifications professionnelles qui peuvent être à la fois des certifications qui sont données à la suite de l'acquisition d'un bloc de compétences pour un salarié, mais c'est tout ce qui va concerner la réglementation, c'est-à-dire par exemple si elle concerne la sécurité, mais ça peut également être aller au-delà, on peut également prendre en compte des validations d'acquis, de compétences. Voilà, on est sur l'aspect diplômant. Progression salariale, progression salariale, où j'en suis au niveau de mon salaire depuis 2 ans, est-ce qu'il a bougé, est-ce qu'il n'a pas bougé? Et professionnel, ça peut être, est-ce que mon poste également est devenu plus intéressant sur les 2 ans, est-ce qu'il a pu évoluer un peu? Donc, on regarde un petit peu là où on en est et comment on a fait bouger tout ça. L'évaluation de son employabilité, c'est-à-dire que là, on va commencer à se projeter sur ce qu'on doit faire, en fait, pour qu'il puisse rester dans l'entreprise, à ce poste. Est-ce que le poste va également… est-ce que les postes vont évoluer lui-même? Parce que il se peut que le salarié, lui, n'ait pas bougé, mais il se peut que son poste évolue, par exemple, s'il y a présence de besoin de plus d'informatique. Le salarié, s'il veut continuer à pouvoir travailler dans l'entreprise, s'il veut même continuer à son poste, il va voir qu'il se forme. Ensuite, la réflexion sur l'avenir du salarié, le poste occupé, le projet professionnel, on va montrer en fait quelque chose de presque plus intime, c'est-à-dire comment discuter en fait. Il y a un partenariat en fait de l'employeur qui devient qui va en quelque sorte accompagner le salarié dans son projet. Alors il le fait pas forcément directement, parce qu'en plus c'est vrai que c'est un état d'esprit qui est plus trop accepté, je crois, dans nos générations, mais il va pas le faire directement, mais il va le faire par le biais d'organismes de formation. on lui demande quand même de s'occuper de son salarié, et pas simplement, il travaille, il s'en va, il vit sa vie. Il y a véritablement une plus grande implication de l'employeur qui devient un petit peu, on va dire, qui va au-delà d'une simple relation, d'un échange de travail, quoi, de force de travail et de direction. Il va un petit peu au-delà, c'est-à-dire devoir accompagner le salarié dans sa vie professionnelle. Ensuite, effectivement, il y a cet aspect, donc tous ces comptes professionnels et de formation. Donc, bon, les salariés, souvent, vont de même hein, vérifier. Ça se fait facilement en ligne. Hein. Donc, ils vont vérifier, ils regardent combien de points ils ont et il faut faire le calcul sur les formations qui sont à disposition. Je crois que c'est assez facile. Hein. Il y a beaucoup d'organismes qui en mettent à disposition. Et en faisant le compte de leurs points, ils savent quel genre de formation ils peuvent faire. Mais là encore, comme l'employeur peut également abonder de son côté, donc il peut regarder, il peut y avoir aussi au sein de l'entreprise des comptes de formation en plus. Hein. Il peut y avoir dans certaines entreprises des accès à la formation déjà dans le cadre de l'entreprise avec des possibilités. Donc si le salarié a un désir, et là bon, souvent c'est des entreprises qui ont quand même un service de ressources humaines, donc là effectivement… il va devoir prendre en compte le désir du salarié et la former sur tout cet aspect qui est l'aspect du financement de la formation.
Alors, il va vraiment falloir qu'on avance parce qu'on a encore toute une partie à traiter et on arrive normalement pas loin de à l'heure du terme de la conférence. Alors, juste une réflexion de Maryse qui nous dit il me semblait de ne pas devoir parler évolution salariale, c'est juste… Il n'y a pas de revendication salariale, c'est juste évoquer le fait qu'il y a eu une évolution salariale ou pas au cours des deux dernières années. C'est juste un constat. Je vais vous laisser donc parler du contenu du bilan professionnel. Et on va répondre aussi à une question qui était intervenue avant. Quelqu'un qui demandait si l'entretien professionnel des 6 ans pouvait être couplé au bilan professionnel. Oui, bien évidemment.
C'est l'idée, oui, il est couplé. Ouais.
Voilà. Donc, le contenu du bilan professionnel, vous pouvez développer, mais alors très rapidement, parce qu'on a encore toute une partie à traiter.
Alors, dans le bilan professionnel… Le bilan professionnel qui va être là, on va faire l'état des lieux en fait hein, de ce qu'on a fait. On va vérifier que tous ces entretiens, on va les rappeler. On va rappeler tout ce qui a été fait pendant les 6 ans. On fait un bilan, un état des lieux en fait de ce qui a été fait. C'est l'occasion de voir si tout a bien été respecté d'ailleurs par le fait qu'on va faire ce bilan. Et il va servir de base également à nouveau parcours professionnel du salarié. Hein. C'est-à-dire pour les entretiens, on va se baser sur les précédents bilans. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment, mais alors sachant que chaque fois, il va falloir faire un écrit hein, donc pour qu'on puisse avoir une trace de ce qui a été fait.
Oui, l'aspect important de ce bilan également, c'est donc de vérifier qu'au cours des 6 ans, il y a bien eu une action de formation non obligatoire pour éviter les sanctions qui sont la thématique de notre troisième partie. Alors, on a déjà répondu à la première question qui devait être posée sur l'employeur. Peut-il être sanctionné si le salarié est absent ou refuse de participer à l'un de ses entretiens? Et la réponse était non. Il suffit juste que vous soyez en mesure de prouver que vous avez organisé l'entretien, que vous avez convoqué le salarié. L'aspect important de la mise en place de ce dispositif, c'est l'abondement du compte personnel de formation des salariés en cas de non-respect de ces dispositions. Donc, dans quel cas précis, et je vous demande d'être vraiment concise parce que là, le temps nous est vraiment compté, dans quel cas l'entreprise doit-elle abonder le CPF du salarié?
Oui, l'entreprise.
Et de quel montant?
Alors voilà, donc la sanction concerne les entreprises de plus de 50 salariés uniquement dans le dispositif actuel. Si effectivement elles n'ont pas respecté leurs obligations, c'est comme c'est indiqué d'ailleurs, 3 000 € par salarié concerné. Et l'indique dans votre rapport, au plus tard, le dernier jour du trimestre civil qui suit la date de l'entretien, l'état des lieux, du parcours professionnel. Donc, on est au bout des 6 ans, si rien n'a été fait, il y a une sanction donc, de 3 000 € qui est inversée par virement à la Caisse des dépôts et consignations. Donc, c'est un mécanisme qui se fait un petit peu automatiquement. Donc, il suffit de rentrer dans un portail entreprise. Enfin, ça va se faire quand même assez rapidement, mais ça va être fait. Ça doit être, c'est une sanction qui va tomber automatiquement.
Alors, de ce que j'avais cru comprendre, en fait, c'est un acte volontaire de l'employeur qui doit verser à la Caisse des dépôts et consignations.
Oui, effectivement, c'est lui qui va devoir verser. Quand je dis que la sanction tombe automatiquement, c'est un petit peu comme les amendes, c'est-à-dire qu'on ne va pas négocier. Voilà, c'est pas, il y a pas une grande appréciation. On va pas chercher à apprécier la faute de l'employeur ou pas. S'il n'a pas respecté cette obligation, il doit automatiquement ces 3 000 € pour les entreprises de plus de 50 salariés. C'est dans ce sens-là que je voulais dire que c'était automatique. Mais effectivement, il doit le faire lui de son plein gré. Hein. C'est-à-dire qu'il doit rentrer, enfin, il doit faire le nécessaire auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il y a également une sanction qui peut être plus subtile, c'est que s'il y a effectivement un litige employeur-salarié, par exemple, qui aboutit au prud'homme, sur lesquels on va contester, par exemple, les qualités professionnelles du salarié, par exemple, le fait de, pour l'employeur de ne pas faire, de ne pas avoir suivi, respecté ses obligations, eh bien, ça peut être une faute, cette fois, dans l'exécution du contrat de travail que peut retenir aussi le conseil des prud'hommes. Donc, il y a encore un autre aspect, cette fois, sur un litige, cette fois subjectif, donc qui peut intervenir, en fait, qui peut se retourner contre l'employeur s'il n'a pas suivi ses obligations. Mais sinon, l'amende, en fait, hein, c'est une forme de sanctions par un amendement au compte de formation qui est obligatoire.
Très bien. Et donc, l'abondement, c'est si les entretiens professionnels n'ont pas été organisés tous les 2 ans au cours des 6 dernières années et s'il n'y a pas eu une formation non obligatoire au cours de ces 6 années. C'est pour faire suite à certaines questions que j'ai vues passer dans le chat que je resynthétise un petit peu les choses. Et donc, si l'employeur oublie d'abonder le CPF des salariés dont il aurait dû avoir à le faire, il y a une autre sanction.
Oui, il y a une autre sanction qui va être effectivement une amende qui va devoir verser au trésor. Donc, c'est le montant des 3 000 € de l'abondement plus majoré de 100%. Donc, en fait, on va doubler la somme qui va être due par l'employeur. Cette sanction va se trouver majorée de 100%. Donc, effectivement, la sanction dans ce cas-là est lourde. Et là, eh bien… c'était auprès du Trésor que le règlement va se faire, donc au même titre que les amendes.
Voilà, et c'est encore l'inspection du travail qui passera pour vérifier que toutes les obligations en matière de formation professionnelle ont été correctement remplies dans les entreprises.
Il appartient quand même aux salariés de vérifier toujours son compte de formation, s'il est tenu au jour, si les amendements ont été faits.
Et tout à fait.
Seulement faire appel à l'inspection du travail si jamais il s'aperçoit que son compte de formation eh bien, il restait bloqué.
Tout à fait. Et ça rejoint une question que j'ai vue passer tout à l'heure. Quel recours pour un salarié, et ça sera la dernière question puisque là on est vraiment en retard, quel recours pour un salarié qui n'aurait pas eu de formation professionnelle depuis 20 ans ?
Alors, quel recours ? Le recours donc à la sanction donc qui celle que ce qu'on vient de dire hein, saisir l'inspection du travail qui va être une sanction en cas d'abandon voilà donc qui va être une sanction financière, elle va frapper l'entreprise. Par contre effectivement pour le salarié sa situation, elle est beaucoup plus compliquée parce qu'il n'y a pas effectivement de litige qui lui permette vraiment d'obliger l'employeur à l'envoyer en formation. Par contre, indirectement, s'il saisit le conseil des prud'hommes, de dommages d'intérêt, de certains préjudices, d'une requalification, par exemple, d'une rupture de contrat de travail. Voilà, donc, s'il peut imaginer diverses saisines du conseil des prud'hommes, hein, dans lesquelles, effectivement, la faute de l'entreprise, de l'employeur, est interprétée comme une faute dans l'exécution du contrat de travail. Donc, c'est faute dans l'exécution du contrat de travail. Si, par exemple, le salarié est sanctionné, qu'il estime que sa sanction n'est pas adaptée parce qu'il aurait dû être formé. Ça peut être, par exemple, dans le cadre où une carrière a stagné, insuffisance de ses points à la retraite. Rechercher la responsabilité de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. Mais là, bien entendu, rien n'est automatique parce qu'il appartient au conseil de prud'homme de qualifier, hein, qui sont juges de l'exécution du contrat de travail. Hein. Donc, il leur appartient à eux de qualifier la faute de l'employeur et de retenir effectivement une sanction dans le cadre d'un litige prud'homal qui va être sous forme de dommages d'intérêt ou sous forme de rattrapage de salaire, différentes possibilités. Donc, on peut imaginer dans le conseil des prud'hommes, mais bien sûr, là, il ne s'agit pas du tout de sanctions automatiques. Donc, pour l'instant, effectivement, l'employeur, le salarié a des possibilités quand même limitées vis-à-vis de l'entreprise. Les sanctions financières sont supposées dissuasives et bien entendu, il y a quand même une obligation d'exercer de part et d'autre loyalement le contrat de travail. Donc, on est quand même dans un rapport qui est un rapport de confiance et la loyauté, normalement, doit être également venir de l'employeur qui doit respecter ses obligations. C'est quand même, en tout cas, ce qu'on attend.
Tout à fait, très bien. Ben, merci beaucoup, Maître. Donc, nous arrivons au terme de cette webconférence qui a été encore une fois très dense. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez obtenu réponse à bon nombre de vos questions. Et je vous invite à lire donc notre dossier sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas votre première question gratuitement à nos juristes ou à recontacter Maître Baldassare, oui. Dont je vous remets les coordonnées à l'écran.
Excusez-moi, je suis en train de regarder les questions. Effectivement, c'est bien de prévoir dans l'embauche, dans le contrat de travail, d'informer dans les entretiens annuels.
Je suis en train de répondre. Ma collègue, pardon. J'essaye de reprendre le fil de la conclusion. On cherche toujours à avoir un petit peu vos ressentis par rapport à nos webconférences. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur celle-ci. Donc, ma collègue va vous envoyer un lien qui vous permettra de le faire. Et je vous donne également rendez-vous pour notre dernière webconférence de l'année qui traitera d'un sujet d'actualité dans bon nombre d'entreprises puisqu'il y sera question des négociations annuelles obligatoires de 2023. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Là encore, ma collègue vous envoie le lien d'inscription par email. Donc, voilà, j'espère vraiment que cette webconférence vous a plus et je vous dis à très bientôt, donc la semaine prochaine, et je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et à tous. Au revoir.